femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
Bienvenue à la Révolution sera féministe sur Radio Galère. Merci de votre écoute et de votre soutien. Alors pour commencer, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le matrimoine en vous racontant l'histoire de Alice Milia pour le sport féminin aux Jeux Olympiques. Vous allez voir que c'est très important. Donc Alice Milia était une pionnière du sport féminin. Elle a milité au début du XXe siècle pour que les femmes puissent participer aux Jeux Olympiques, malgré l'opposition de Pierre de Coubertin. Elle s'est également battue pour qu'elles aient leur place dans les instances sportives. Donc c'est important de revenir sur cette histoire d'une personnalité qui a été malheureusement très longtemps oubliée des annales du sport. Vous allez en avoir la preuve. Et je pense que vous êtes certainement très peu nombreux et nombreux à la connaître. Aux Olympiades 2021, il faut savoir que les femmes représentent 48,8% des athlètes présents à Tokyo, un chiffre qui n'avait jamais été atteint jusque-là. Mieux, dans 3 ans, lors des JO de Paris en 2024, le Comité international olympique, le CIO, a confirmé que pour la première fois en plus d'un siècle d'histoire, il y aura une parité stricte entre les femmes et les hommes parmi les 10 500 athlètes qui participeront aux compétitions. Donc, affaire à suivre parce qu'on n'y est pas encore. Alors, le 24 juillet 2020, le conseil municipal de Paris a choisi à l'unanimité le nom de ce futur équipement olympique qui portera le nom d'Alice Milia. C'est la première fois qu'une femme donne son nom à un équipement olympique. Longtemps oublié, le souvenir d'Alice Milia refait enfin surface. Le 8 mars 2020, Journée internationale des droits des femmes, Denis Masselia, le président du Comité national olympique français, inaugurait enfin une statue à l'effigie d'Alice Milia, tout un symbole et une juste reconnaissance pour cette pionnière du sport féminin. Cette statue est haute de 2,85 m. Elle trône dans le hall d'entrée du Comité olympique français, aux côtés de ciel de Pierre de Coubertin. Et je vais vous raconter l'histoire, vous allez voir. C'est donc inimaginable en fait, puisqu'il y a encore quelques années, ce même Denis Masselia déclarait en mars 2017 au journal La Croix « On peut respecter l'œuvre d'Alice Milia, mais il n'y a qu'un Pierre de Coubertin au monde et il continuera à régner seul dans notre hall. Mais je m'engage, après le vote du 13 septembre, il y avait eu un vote, à étudier quelque chose, une médaille, une plaque peut-être, mais pas de statut, ça non. » Alors maintenant, je vais vous raconter un peu son histoire. De son vivant, Alice Milia s'est opposée au père des Jeux Olympiques modernes, qui refusait alors de voir la gente féminine sur les terrains de sport. Au mieux, le baron Pierre de Coubertin accepta-t-il à partir des JO de 1900 de laisser participer quelques femmes à très peu d'épreuves jugées compatibles avec leur féminité et leur fragilité, comme le tennis ou le golf. Il disait « Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel, pour qui le sport demeure le symbole même de la virilité. » Malheureusement, ce point de vue est loin d'être marginal au début du XXe siècle. La société patriarcale avance des arguments médicaux et esthétiques pour contre-indiquer le sport au sexe qu'il considère comme faible. Pensez-vous, avec la constitution de ces dames, un effort violent pourrait les tuer, ou pire, les rendre stériles. Gymnastique sanitaire, ainsi les jeunes filles qui ont droit officiellement à l'éducation depuis 1879 se voient cantonnées à de la gymnastique sanitaire afin de développer la souplesse et la légèreté, bien entendu séparément des garçons. Pas de mixité donc, pas de compétition non plus, une jeune fille ne pouvant décemment pas faire du sport pour dominer sa voisine. C'est dans ce contexte que naissent Alice Milia, fille d'épicier nantais le 5 mai 1884. Peu assidue à ses activités sportives au cours de sa jeunesse, c'est à Londres que la jeune femme découvre le sport et se prend de passion, notamment pour l'aviron. En 1903, elle quitte sa Bretagne natale pour devenir préceptrice dans une famille aisée de Notting Hill, le quartier huppé de la capitale britannique. Avec cette famille, elle voyage à plusieurs reprises aux États-Unis et en Scandinavie. Des expériences à l'étranger atypiques pour une jeune provinciale de conditions modestes. Ainsi, elle parle couramment anglais, mais apprend également d'autres langues. Peu après son arrivée à Londres, elle rencontre Joseph Milia, un employé de commerce, fils d'un coiffeur, et nantais comme elle. Le couple se marie en juillet 1904 au consulat de France. 3 ans plus tard, il rentre à Nantes. Quelques mois plus tard, elle se retrouve veuve, à seulement 24 ans. Elle décide de partir à Paris où elle trouve un poste de sténographe-interprète. Révolutionner le sport féminin, marqué par sa découverte du sport, mais aussi par le combat des suffragettes anglaises pour l'égalité entre les femmes et les hommes, Alice Milia se rapproche alors de l'un des premiers clubs féminins de l'Hexagone, le Femina Sport, créé en 1911 par Pierre Pessé, ancien champion du monde de gymnastique, afin de poursuivre sa pratique de l'aviron. L'association sportive ne propose alors que de la gymnastique rythmique et dansée. Qu'importe, la jeune femme propose ses services au bureau de l'association et se retrouve élue présidente en 1915. Sous son impulsion, le Femina Sport diversifie ses activités. Outre l'aviron, le club propose maintenant aux jeunes femmes de pratiquer l'athlétisme, le basketball, le football ou encore la barrette, une version adaptée du rugby. C'est le début de cette révolution engendrée par Alice Milia. 2 ans plus tard, alors que la guerre fait toujours rage, que les hommes se battent au front et que les femmes prennent leur relève à l'arrière, au champ comme dans les usines, Alice Milia organise le premier championnat de France d'athlétisme, puis le premier match de football féminin officiel. En 1919, elle participe à la création de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, FSFSF, qui tente d'organiser et de développer le sport féminin sur le territoire. La jeune femme en devient la première présidente. Quelques mois après la fin de la guerre et ses millions de morts, si de nombreux hommes restent hostiles à la pratique féminine du sport, les institutions jugent salutaire le renforcement de la, entre guillemets, la race qui passe par les futures mères. La FSFSF est reconnue d'utilité publique et reçoit un financement du ministère de la Guerre. Fort de ce soutien politique, Alice Milia continue à développer le sport féminin de haut niveau. Elle met sur pied la première équipe de France de football qui fait le déplacement en Grande-Bretagne pour rencontrer une sélection anglaise le 29 avril 1920 dans le stade de Deepdale devant 25 000 spectateurs. Un match retour est organisé en France au stade Perching à Paris qui attire près de 20 000 personnes. Encouragée par ce succès, Alice Milia, qui vient de lancer la Fédération sportive féminine internationale, la FSFI, demande officiellement au CIO d'intégrer des épreuves féminines aux JO, notamment dans le programme d'athlétisme, la discipline phare. Face à l'absence de réponse de Coubertin et de ses comparses, la jeune femme contre-attaque. Elle annonce que sa fédération organisera ses premiers Jeux olympiques féminins, événement immédiatement condamné par le CIO qui crie au plagiat. Coubertin déclare que cette, je cite, « olympiade féminine serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte ». La réponse d'Alice Milia ne se fait pas attendre. Malgré nos sollicitations pressantes et réitérées, le comité olympique a toujours refusé d'adjoindre l'athlétisme féminin aux Jeux olympiques. Nous allons prouver que nous sommes capables de conduire nous-mêmes nos destinées. Et donc le 20 août 1922, sur le stade Pershing à Paris, 77 sportives venues de France, des États-Unis, de Tchécoslovaquie, de Grande-Bretagne et de Suisse s'affrontent devant plus de 20 000 spectateurs et spectatrices. Son objectif réel était de prouver aux dirigeants du CIO les capacités sportives des femmes afin d'être admises dans l'intégralité du programme olympique. C'est ce qu'explique l'historienne Florence Carpentier. Les débuts d'une ouverture. Malheureusement, pour les JO de 1924 à Paris, le CIO refuse une nouvelle fois d'organiser des épreuves féminines en athlétisme. Qu'à cela ne tienne, 2 ans plus tard, en 1926, la FSFI organise une deuxième édition de ces Olympiades féminines à Göteborg, en Suède. La compétition est rebaptisée Jeux mondiaux féminins, afin de ménager la susceptibilité du CIO. Cette fois-ci, une centaine de sportives représentant 9 nations concourent durant 3 jours. Face à ce nouveau succès, tant sportif qu'organisationnel, les lignes commencent enfin à bouger. D'autant plus que Pierre de Coubertin a pris du recul en 1925 en quittant la tête du CIO. Pour Alice Milia, le chemin est encore long. Elle maintient la pression sur le CIO avec son association en maintenant l'organisation des Jeux mondiaux féminins qui se déroulent en 1930 à Prague puis à Londres en 1934 avec à chaque fois 270 participantes de près de 20 pays. Malheureusement, le vent des années folles a fini de souffler pour le sport féminin. La crise économique de 1929 entraîne la réduction drastique des subventions, en France comme partout en Europe. Malgré l'avènement des congés payés et la démocratisation de la pratique féminine, le CIO revoit à la baisse le nombre des épreuves ouvertes aux femmes lors des JO de Los Angeles en 1932, tandis qu'Alice Milia n'est pas invitée à siéger dans le jury olympique, qui redevient exclusivement masculin. Dans un dernier baroud d'honneur, la Française Alice Milia écrit en 1935 au Comité international olympique. La FSFI constate que le CIO a tendance à restreindre de plus en plus la participation féminine aux JO dans tous les domaines. Dans ces conditions, elle estime qu'il lui appartient de reprendre l'idée d'organiser des Jeux féminins mondiaux comportant toutes les genres d'activités sportives féminines. Sa missive, écrite donc en 1935, je rappelle, restera lettre morte. Lasse des multiples attaques qu'elle subit dans la presse, malade, la quinquagénaire décide de quitter ses fonctions quelque temps après. La 5e édition des Jeux mondiaux féminins, prévue en 1938 en Autriche, n'aura finalement jamais lieu et les fédérations nationales et internationales ne survivront pas au départ de Alice Milia. À la veille de la guerre, Alice Milia retrouve son métier d'interprète. Elle poursuit son existence, mais dans l'anonymat le plus complet, jusqu'à sa mort, le 19 mai 1957, à l'âge de 73 ans, sans avoir réussi à concrétiser le combat de sa vie. Pourtant, si aujourd'hui les femmes peuvent pratiquer un sport à haut niveau et rêver de participer aux JO, c'est en grande partie grâce à elle. Et voilà pourquoi je voulais vous raconter cette histoire qui fait partie de notre patrimoine. Voilà, alors donc je vais maintenant vous parler de la lutte contre le système prostitueur. 6 ans ont passé après la loi du 13 avril 2016, qui a été votée, une loi abolitionniste complète, ambitieuse, de lutte contre le système prostitueur, qui considère la prostitution comme une violence sexuelle et qui, par la suppression du délit de racolage, dépénalise les personnes en situation de prostitution, donc pour la très grande majorité des femmes. Donc, contrairement à ce que vous, malheureusement, on entend tout le temps de la part des pro-prostitution qui prétendent que c'est un travail et qui font croire que cette loi pénaliserait les prostituées, les femmes, mais ça n'est pas le cas, puisque justement, grâce à cette loi, comme je vous l'ai dit, c'est l'inverse. Le délit de racolage est supprimé, ne sont plus donc considérés du tout responsables ou quoi que ce soit. Donc, la loi repose sur quatre piliers. La lutte contre le proxénétisme, l'amélioration de la prise en charge des personnes victimes de prostitution, un changement de regard sur la prostitution, la responsabilisation des clients de la prostitution à travers la création d'une infraction de recours à la prostitution d'autrui. La loi fonctionne quand elle est appliquée, mais les moyens alloués à l'application de la loi, c'est le problème, restent terriblement insuffisants. Et le plus important, c'est la mentalité des clients prostitueurs. C'est d'eux dont il faut parler, qui évoluent très peu. Ils sont pourtant la raison d'être de ce système de traite d'êtres humains, et pourtant ils ne risquent pas grand-chose, même lorsque les victimes sont des enfants. Donc il faut bien rappeler que ce système prostitutionnel est un système de traite à 90%. La majorité des personnes prostituées sont issues de la traite. On estime aujourd'hui qu'entre 30 000 et 50 000 personnes sont victimes de la prostitution en France, et parmi elles, au moins 10 000 sont mineures. Aujourd'hui, ça se passe en Ukraine, donc tout près de chez nous. Les femmes ukrainiennes sont recrutées par Stras, etc., par Appli Rouge. Donc ceux qui prétendent que la prostitution est un travail, eh bien au moins, on voit vraiment qui ils sont, puisqu'ils ils vont rechercher, profiter de la guerre pour rechercher les Ukrainiennes et les faire entrer dans la prostitution. Donc quand vous les entendez dire qu'ils luttent contre la traite, bien sûr que c'est absolument faux, puisque c'est exactement l'inverse. Alors, des moyens supplémentaires sont nécessaires pour lutter plus efficacement contre les proxénètes et les filières de traite d'êtres humains, que ce soit dans la prostitution comme dans l'industrie pornographique. Il faut aussi des moyens supplémentaires pour accompagner les femmes en situation de prostitution, qu'elles puissent être bien accueillies dans les commissariats quand elles veulent déposer plainte. Et pour cela, donc il y a des recommandations. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des recommandations des associations qui accompagnent les femmes en situation de prostitution et qui demandent une revalorisation de l'allocation actuelle qui est misérable, qui est de 330 euros actuellement. Pour leur permettre de vivre dignement, on demande aussi un accès effectif au logement, au titre de séjour, à une formation professionnalisante, à la protection et aux soins. Nous demandons le déploiement des commissions départementales partout en France, puisque cette loi, il y a un manque de volonté politique et elle n'est pas appliquée partout pareil, donc il n'y a pas les commissions départementales qu'il devrait y avoir, pour augmenter notamment significativement le nombre de parcours de sortie de la prostitution. Donc le mouvement du Nid demande des moyens financiers pour 40 000 parcours de sortie par an. Ce serait tout à fait possible de les obtenir puisque la lutte contre la traite a permis de récupérer l'argent de la traite. Donc, enfin, il est essentiel de rappeler que sans demande, il n'y a pas de prostitution, pas de traite sexuelle, pas de proxénétisme. La loi doit être enfin appliquée pleinement contre les clients prostitueurs. Rappelons que pour ce qui concerne les mineurs, les pénétrations contraintes contre des mineurs, c'est un délit passible jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende au-delà de 15 ans et c'est considéré comme un viol en dessous de 15 ans. Voilà, espérons qu'un jour, même pour les adultes, la prostitution soit reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un viol tarifé, que l'on soit enfant ou adulte. Donc le focus sur les clients. Ils sont la raison d'être donc du système de traite d'êtres humains et pourtant ils ne risquent pas grand-chose, même lorsque les victimes sont des enfants. Au sein de la fondation CEL, donc, qui est une fondation qui accompagne les femmes en situation de prostitution, Frédéric Boisard est chargé des stages clients. Ces stages font partie de l'arsenal de pénalisation des clients prostitueurs. Il a accordé une interview au magazine Prostitution et Société, qui est le magazine du Mouvement du Nid. Il déplore la légèreté ou l'absence de peine infligée à ces hommes, en particulier ceux qui ont prostitué des mineurs et copant seulement de peine avec sursis, et souligne chez ces hommes un certain conditionnement pour arriver à une telle violence. Il déplore le manque de moyens pour les conduire à remettre en question ce conditionnement. Il note quand même que les stagiaires les plus jeunes se montrent plus souvent réceptifs au discours des formateurs. La peur du gendarme n'y est pas pour rien dans les rares zones où la police intervient. 5 policiers qui débarquent dans une chambre indiquée via SMS par un proxénète, ça impressionne, surtout les primo-délinquants. Mais c'est souvent le fait d'écouter les survivantes de la prostitution qui fait aussi changer le regard de ces hommes. En entendant les histoires de vie, la violence subie par ces femmes, parfois mineures, ils peuvent changer. Mais ils sont peu nombreux à suivre ces stages. Selon les chiffres de la Fondation SEL, 396 clients prostitueurs ont été verbalisés l'an dernier à Paris. Donc c'est très peu, et parmi eux, 157 seulement ont suivi un stage de sensibilisation. Rendez-vous compte à quel point cette loi n'est pas suivie, puisque normalement, n'est pas assez appliquée. La différence, donc, on voit 157 clients en une année qui ont suivi un stage, alors qu'une mineure de 15 ans avait compté 600 appels de clients en une journée. Donc, il faudrait faire un décryptage sur ceux dont on ne parle jamais, mais dont la responsabilité est immense, les prostitueurs. Le mouvement du Nid a fait un dossier entier sur cela. Donc, je mettrai la référence dans le podcast pour que vous puissiez le retrouver. Et je rappelle aussi donc une initiative donc de l'Assemblée des femmes, qui est une association féministe, qui avait fait un événement sur la loi et prostitution le 31 mars dernier, qu'on pouvait suivre à Nice ou sinon en replay sur YouTube. Donc c'est une conférence qui a été organisée en partenariat avec le mouvement du Nid et avec Oser le féminisme pour faire le point, donc 6 ans après l'adoption de cette loi qui lutte contre le système prostitutionnel et qui accompagne les personnes prostituées. Donc cette conférence avait pour but de rappeler les enjeux féministes de cette loi, qui a été notamment portée par Maud Olivier et par Laurence Rossignol. Donc il y avait aussi Élodie Pélissier qui a rappelé le travail d'accompagnement des personnes prostituées porté par le mouvement du Nid. Il y avait Maud Olivier qui était rapporteur de la loi, qui a exposé donc les enjeux, les mécanismes du texte. Je vais vous faire passer juste un petit extrait synthétique. Ensuite, une autre fois, je passerai carrément toute son intervention qui est vraiment formidable, qui dure 20 minutes. Donc moi, je vous passerai déjà la présentation de la loi qu'elle a fait. Il y a eu aussi Céline Pic, donc présidente d'Oser le féminisme, qui est aussi une autrice et qui a écrit un livre que nous vous recommandons qui s'appelle « Déviriliser le monde, demain sera féministe » que l'on peut trouver maintenant dans toutes les bonnes librairies. Donc ça, j'avais passé son intervention dans un dernier podcast et c'est très intéressant. Donc elle a mis en évidence les liens entre la pornocriminalité, donc du système de la pornographie, et la prostitution. Et c'est un sujet que cette association Oser le féminisme, notamment, est en train de faire émerger. Donc dans la pornographie, il y a tout à fait les mêmes... c'est en fait de la prostitution filmée. Nous avons les mêmes mécanismes de rabattage, de dénigrement, d'humiliation, de violence, de viol des femmes et des mineurs. D'ailleurs, Oser le féminisme, j'en ai parlé aussi, et suit le procès des pornocriminels et sur le site Pharos a fait le travail bénévole de signaler au moins 200 vidéos de pornographie qui sont complètement illégales avec des actes de torture, des actes d'une violence inouïe. Voilà, donc il y avait aussi l'intervention de Laurence Rossignol qui a mis en avant la nécessaire convergence des luttes contre la pornographie et le système prostitutionnel. Elle est sénatrice et elle travaille actuellement avec la délégation des droits des femmes du Sénat à un rapport sur la pornographie. Donc je vous le disais tout à l'heure, la loi de 2016 fonctionne quand elle est appliquée, mais les pouvoirs publics ont choisi de ne pas la porter. Elle est malheureusement fort peu appliquée. Il y a pourtant donc les recommandations des associations, toutes les associations féministes qui luttent contre la culture du viol sont abolitionnistes et ont donné des recommandations, écrit un manifeste. Je remettrai aussi la référence dans ce podcast. Alors que nous sommes dans une époque qui reconnaît enfin l'ampleur des crimes sexuels et l'impunité des agresseurs grâce à MeToo, cette conférence a mis en lumière un double paradoxe. Les violences sexuelles contre les filles et les femmes ne faiblissent pas. Et la culture du viol est plus installée chez les jeunes que chez leurs aînés. Car les jeunes consomment très tôt et en masse de leur pornographie. Et elle leur fournit des scénarios de violences sexuelles qui conduisent à une addiction à la violence, à une banalisation de la haine des femmes. La pornographie a un impact gravissime sur nos sexualités et sur les relations entre les garçons et les filles. Or, la société se cache les yeux sur cette réalité, tout comme elle se désintéresse dans son ensemble du sort des personnes prostituées. De plus, les offensives permanentes de la part des réglementaristes contre la loi de 2016 sont répétées et les mentalités encore plus difficiles à bouger. Voilà, donc Laurence Rossignol a rappelé que nos adversaires aujourd'hui sont malheureusement dans le camp dit du progrès. Ce n'est plus tant la droite réactionnaire. Donc il y a cette nouvelle idéologie soi-disant pro-sexe, mais en fait il ne s'agit pas de sexe, de la légalisation de l'achat sexuel. Il y a donc mais aussi du proxénétisme réglementarisme. Voilà, donc en fait, par exemple en Allemagne, où la prostitution est un travail, est réglementarisée, eh bien, on ne dira pas proxénète, mais on dira un événementiel, puisque la prostitution est un travail. Donc voilà, tout le vocabulaire sera transformé, donc ce sera les proxénètes, ce sont des loueurs d'appartements, un business. MeToo a ouvert la conscience sur la violence sexuelle et pourtant dans le mouvement féministe, une offensive brutale et violente donc des pro-viols tarifés, donc des pro-réglementations de la prostitution. Et c'est difficile de comprendre comment ce mouvement a intoxiqué des femmes qui se prétendent féministes et qui n'arrivent pas à comprendre que pourtant cette violence est la clé de voûte, qu'elle domine toutes les autres et qu'elle rend toutes les autres violences, elle légitime toutes les violences faites aux femmes. Donc je vais vous citer Laurence Rossignol. « Je suis profondément convaincue que le combat féministe est la lutte la plus subversive qui soit, parce que le patriarcat est la domination la plus vieille du monde. C'est cela la réalité de la prostitution. Ce n'est pas le plus vieux métier du monde. Quelle tristesse d'ailleurs d'apprécier l'ensemble de l'humanité à l'aune de l'asservissement sexuel des unes par les autres. Mais la marque la plus endolorie de ce que les forces de l'argent et du virilisme infligent aux femmes depuis des siècles. C'est pour toutes les victimes passées ou à venir que nous devons abolir la prostitution. » Je vais citer aussi Maude Olivier. « En tant que féministe, je me bats pour que la sexualité des femmes s'exerce dans un désir partagé, qu'elle soit vécue en dehors des contraintes morales, psychologiques ou financières. Les mouvements de libération des femmes se sont battus pour que la sexualité soit libérée de la violence, pour mettre fin au droit de cuissage, pour faire du harcèlement sexuel un délit, du viol un crime, même au sein du couple. Je ne comprends pas comment on peut se dire féministe et en faveur de la légalisation de la prostitution, qui n'est que l'institutionnalisation de la domination masculine. » Donc je vais vous faire écouter justement Maude Olivier, que je viens de citer, qui vous résume ce qu'est cette loi de lutte donc, que nous défendons absolument et dont nous demandons la vraie application.
Nous avons vraiment voulu faire un marqueur de cette loi sur la lutte contre les violences faites aux femmes. La prostitution contribue à diffuser l'idée que le corps des femmes peut être à disposition à tout moment, en payant ou en violant. Parce que la prostitution, c'est la base de la culture du viol. Et la base aussi des inégalités entre les femmes et les hommes, puisque les personnes prostituées sont à 85% des femmes, mais que les clients sont à 99% des hommes.
Donc c'est une loi féministe ?
L'acte sexuel, ça se partage, ça ne s'achète pas. Et les féministes se sont toujours battues pour libérer la sexualité de toutes les contraintes, qu'elles soient économiques, psychologiques ou autres. En fait, la prostitution, c'est le désir du client et absolument pas celle de la personne prostituée.
Mais c'est quoi cette loi ?
Alors la loi, elle est basée sur quatre piliers indissociables. Le premier pilier, c'est de lutter évidemment contre les proxénétistes, contre les proxénètes et les réseaux. Le deuxième pilier, c'est d'aider les personnes victimes de prostitution à s'en sortir, donc les accompagner avec différents moyens. Troisième pilier, c'est de faire en sorte qu'il y ait une éducation à la sexualité dans les écoles, comme c'est prévu dans la loi, ce qui n'est absolument pas appliqué. Et faire comprendre aussi que le corps, ça ne s'achète pas. La non-patrimonialité du corps humain, c'est un principe constitutionnel, il faut le rappeler, dans les écoles. Et enfin, le quatrième pilier, c'est de responsabiliser le client et de le pénaliser, et donc de poser dans la loi un interdit d'acheter un acte sexuel.
Donc c'est une loi qui protège.
Les clients ne peuvent pas ne pas savoir que c'est leur argent qui finance les réseaux et les proxénètes. Et de plus, le fait de les pénaliser va dissuader les réseaux de s'implanter sur notre territoire. Et ça, c'est un des meilleurs moyens.
Peut-on parler d'une loi qui libère ?
Le bilan de la loi, il est en demi-teinte. Parce que là où elle est appliquée, elle fonctionne et elle fonctionne bien. Mais elle n'est pas appliquée partout. Et ça, c'est un vrai problème. Du coup, ça a permis à des proxénètes et des réseaux de faire de la propagande pour un travail du sexe. Or, bien évidemment, le sexe, l'activité sexuelle ne peut pas être un travail, ça a déjà été clairement dit. Donc certains parlent de dangerosité de la loi, ce qui est au contraire, la loi protège les personnes prostituées qui veulent en sortir. Et ça, c'est fondamental. Nous avons pensé évidemment qu'il fallait absolument les protéger contre cette violence. La prostitution, c'est une activité qui est inhérente, qui est dangereuse en elle-même. La dangerosité de la prostitution est claire. C'est les rapports de violence avec le client, c'est des violences, y compris psychologiques, c'est des viols qu'elle subit, c'est tout cela. Ça, c'est inhérent à l'activité prostitutionnelle. Et en fait, la loi permet aux personnes prostituées qui seraient victimes d'une violence particulière de clients, ou de proxénètes bien sûr, d'aller porter plainte, ce qu'auparavant, évidemment, elle n'osait pas faire. Elle ne pouvait pas le faire auparavant, parce qu'elles étaient poursuivies pour racolage. Et grâce à la loi, qui a supprimé cet aspect-là, elles ne sont plus des délinquantes. Donc ce sont des femmes libres, donc elles peuvent tout à fait aller porter plainte si elles subissent une violence. Aujourd'hui, on voit des publicités pour proposer aux femmes ukrainiennes qui fuient la guerre, leur pays, les violences, leur proposer de venir dans des systèmes de prostitution. Franchement, si c'est tout ce que notre société a à offrir à ces femmes, vraiment, il y a de quoi avoir honte.
Thank you.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je vais reprendre en faisant donc un focus sur les clients prostitueurs. Pour cela, je vais vous lire le témoignage donc d'une survivante de la prostitution qui s'appelle, je ne prononce pas forcément bien, Ushke Mao, qui est une survivante allemande, qui a voulu écrire ce témoignage dont le titre est « Le client, pourquoi les hommes vont voir les prostituées et ce qu'ils en pensent ». Donc je vais vous lire pas tout parce que c'est très long, donc, mais quelques extraits. À côté de mon bureau se trouve une boîte dans laquelle je collectionne les mauvais souvenirs. Chaque fois que j'ai un flashback ou des pensées intrusives, je les note sur un morceau de papier. Je le jette dans la boîte et je ferme le rabat. La boîte est assez pleine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup brassé dans cette boîte parce que je voulais écrire un texte sur les clients. Et oui, je dis client. Cela vient de quelqu'un de libre. Le client, donc là c'est une parenthèse, le client de prostitution en Allemagne, en allemand, se dit Freier, soit le libre, comme dans marcher sur les pieds des libres. Et c'est donc un euphémisme pour l'abus sexuel, ce que font les clients dans la prostitution, et un des nombreux exemples du fait que nous vivons dans une société qui accepte, normalise et minimise la violence sexuelle contre les femmes. Je ne dis délibérément pas acheteur de sexe, car dans la prostitution, il n'y a pas de sexe qui soit transféré de travailleur du sexe à acheteur de sexe et remis au comptoir. Curieusement, on parle peu des personnes qui exercent cette violence. Le sujet de la prostitution concerne généralement les femmes qui sont entre guillemets autorisées à le faire. Ensuite, j'entends toujours parler de toutes les entre guillemets putes surdelles, gentilles et sympathiques que quelqu'un connaît. Mais cela ne veut rien dire. Car je connais aussi quelques Hartz-Ivers surdelles, gentilles et sympathiques, ce qui ne m'empêche pas de rejeter le système Hartz-Iver. Rejeter la prostitution ne signifie pas rejeter les prostituées, mais avoir compris le système de la prostitution, un système que les clients établissent à travers leurs demandes. L'autre jour, on m'a demandé comment reconnaître un client et j'ai dû admettre s'il n'est pas dans un bordel devant toi en train de brandir un billet, impossible. Non, même moi, je ne reconnais pas les clients dans la nature, même après 10 ans de prostitution. C'est parce que, comme vous l'entendez si souvent, ce sont vraiment des hommes normaux. Ce qui n'est pas censé rassurer ici et maintenant. Quiconque pense aujourd'hui que je parle d'une minorité, d'un tout petit nombre d'hommes malades, se trompe. Donc là, j'ai passé un peu le... Elle a décrit un peu les clients. Bon, je vais quand même vous dire les petits exemples. Donc, elle dit « J'ai eu des clients, beaucoup d'entre eux, qui m'ont demandé combien ça coûte et qui ont admis qu'il ne s'agissait pas de sexe, mais d'acheter des femmes. J'ai des clients qui m'ont souri de manière dégoûtante quand ils ont remarqué que je souffrais. Mon premier client était l'un d'entre eux. Certains d'entre eux ont remarqué précisément ce que je ne voulais pas, mais ont quand même continué. Certains m'ont demandé mon âge la première fois ou m'ont dit qu'ils aimaient les très jeunes filles ou les enfants. Certains se sont sentis obligés de me proposer de me mettre enceinte pour une raison quelconque. D'autres m'ont demandé s'ils pouvaient, entre guillemets, m'avoir. Certains clients étaient tellement convaincus d'eux-mêmes et de leur performance sexuelle qu'ils m'ont accusé de ne pas avoir honte de prendre de l'argent pour ça, parce que j'en aurais tiré quelque chose. Quiconque pense aujourd'hui que je parle d'une minorité, d'un tout petit nombre d'hommes malades, se trompe. Selon les statistiques qu'on évoque, en Allemagne, soit un homme sur 5 va voir les prostituées, soit 3 hommes sur 4. On peut calculer que chaque jour, 1 à 1,2 million d'hommes se rendent dans les maisons closes allemandes. Ne sont pas inclus les hommes qui regardent la prostitution filmée, la pornographie, parce qu'ils sont bien des clients quelque part. Donc là, je fais une parenthèse. Donc en Allemagne, où la prostitution est légale, est réglementée, donc un travail, et bien la prostitution a explosé évidemment, donc 10 fois plus qu'en France. Donc en France, environ 50 000 personnes prostituées, pratiquement, bon, je vais dire des femmes, puisque c'est l'extrême majorité. Et en Allemagne, c'est 500 000. Mélissa Farley a découvert dans une étude que les clients sont beaucoup plus susceptibles de commettre un viol que les non-clients. Premièrement, on peut en conclure que la prostitution a un effet d'apprentissage sur les hommes, à savoir que la violence contre les femmes est acceptable dans certaines circonstances. Non seulement un nombre particulièrement important de femmes qui ont déjà été victimes d'abus se retrouvent dans la prostitution, mais elles y subissent également d'autres violences. Et les clients emportent avec eux des inhibitions réduites concernant la violence sexualisée contre les femmes lors de leur visite aux prostituées. Et cela signifie « La prostitution est la conséquence de la violence à l'égard des femmes. La prostitution est elle-même une violence à l'égard des femmes. la prostitution est la cause de la violence à l'égard des femmes. C'est pourquoi la prostitution concerne toutes les femmes. Si une femme peut être achetée, alors toutes le sont. Combien de fois ai-je entendu des clients dire qu'ils préfèrent me payer plutôt que n'importe qui, c'est cher, des fleurs, un restaurant et ainsi de suite. Au bout du compte, vous ne pouvez même pas arriver à vos fins. Fin de citation d'un client. En outre, les clients rejouent souvent des scènes de pornographie violente dans un bordel. C'est-à-dire qu'ils passent du statut de voyeur de la violence sexuelle à celui d'auteur direct. Puis définissent ces pratiques comme normales, réalisables et exerçables, sans conséquences. Et les proposent à leurs partenaires ou les leur demandent. La prostitution ne se situe pas en dehors de cette société. Elle est produite par elle et est également nécessaire pour cimenter le modèle traditionnel, encore et toujours. Homme actif et agressif. Femme passive et soumise. Elle est financièrement dépendante de lui, alors, tant qu'il peut disposer d'elle sexuellement, ses besoins ne sont pas une priorité. Donc là, je retrouve effectivement une espèce de comment dire, je sais pas, de définition du patriarcat. En fait, la dépendance économique des femmes est nécessaire. La domination économique des hommes sur les femmes est nécessaire et justifie une domination sexuelle. Alors, quelle sexualité veut-on ? Ce n'est pas un hasard si les partisans de la dépénalisation complète de la prostitution continuent de dire que c'est toujours mieux que le mariage, car le mariage et la prostitution reposent exactement sur le même principe de base. Il est tellement dommage que nous vivions dans une société qui ne peut pas imaginer une sexualité dans laquelle aucune compensation n'est versée aux femmes, simplement parce qu'il n'y a pas de dommage. Au contraire, nous vivons dans une société qui croit que les hommes ont droit au sexe en toutes circonstances, même si cela signifie qu'une femme est forcée d'en avoir. C'est dommage, mais malheureusement c'est comme ça, n'est-ce pas ? Le monde est tout simplement mauvais. Il devient évident que les besoins des hommes sont apparemment plus importants que l'intégrité physique et mentale des femmes, sans parler de leur choix personnel sexuel. Parce que la prostitution est le contraire d'un choix personnel sexuel des femmes. Et les clients le savent. Et cela les excite. Ou ils ne le savent pas, mais ils peuvent le savoir, ou ils l'évincent. En bref, voulons-nous vivre dans une société où les hommes aiment que les femmes répriment leur dégoût et où ils ne se soucient pas du meilleur ? Les clients ne voient pas les prostituées comme des femmes. Ils ne voient que l'objet, le corps, voire l'accessoire décoratif. Ils ne peuvent vraiment pas savoir comment elle va, pourquoi elle se prostitue, ce qu'elle pense vraiment, quel genre de vie elle a eu jusqu'à présent, si elle veut être ici ou non. Ils sont tout simplement profondément indifférents. La femme, ses droits, sa volonté et ses sentiments leur sont indifférents. Et c'est ce que tous les clients ont en commun, vraiment tous, l'indifférence. Les clients payent pour l'absence de dignité, d'ego et de volonté d'une femme. Et la question est de savoir pourquoi nous aurions réellement besoin d'une institution qui typiquement leur permettrait. Voilà, donc je mettrai la référence de ce texte que je trouve très fort et très beau, donc de Euske Mao, le client. Pourquoi les hommes vont voir les prostituées et ce qu'ils en pensent. Donc toujours sur un focus sur les clients, il y a aussi une femme qui s'appelle Ingeborg Kraus, qui vient d'écrire aussi une publication qui s'intitule « La libéralisation de la prostitution en Allemagne ». C'est une Allemande aussi, a cassé toute une génération d'hommes. Donc Sandrine Goldschmidt du Mouvement d'Uni en parle. Et donc cette femme, Ingeborg Kraus, a un blog qui s'appelle Trauma and Prostitution. Et ce blog révèle que, en fait, elle est psychothérapeute, donc révèle ce que cette femme, Ingeborg Kraus, a appris sur les clients. Donc cette femme est connue en tant que psychothérapeute en Allemagne pour son combat contre la prostitution et elle est amenée à répondre aux appels d'hommes désireux d'y voir plus clair sur leur comportement. Donc ce sont les hommes qui viennent volontairement à elle puisque voilà, les hommes ne sont pas en Allemagne, voilà, il n'y a pas de problème à acheter une femme. Donc elle a un témoignage qui est très remarquable, très précieux, car il souligne sans ambiguïté, comme vient de le faire en fait Euske Mao, dont je viens de vous lire un extrait de son texte, donc souligne en fait le lien de continuité entre ce qu'endurent les femmes prostituées et les femmes non prostituées, qui sont elles-mêmes directement impactées à leurs dépens par l'univers du viol tarifé, puisque celui-ci vient irrémédiablement contaminer toutes les relations hommes-femmes. Je vous ai dit tout à l'heure, donc en Allemagne, vous avez 10 fois plus de prostituées qu'en France. Et est-ce que tous les hommes vont voir les prostituées en Allemagne ? Eh bien, on n'a pas exactement les chiffres, mais d'après Ingeborg Kraus, elle dit, on peut dire que les hommes qui n'achètent pas de sexe sont l'exception. Donc, voilà, je ne vais pas vous lire tout son témoignage que je vais mettre en référence parce que ça rejoint un petit peu déjà ce que je viens de vous lire avec celui de Öschke Mau. Mais par contre, je vais vous lire seulement la fin qui est très importante. Sandrine Goldschmidt, travaille au Mouvement d'Uni, lui demande en quoi la loi allemande ne fait-elle qu'empirer les choses ? Voilà ce qu'elle répond. Une loi qui autorise l'achat de sexe ou viol tarifé rend les agresseurs invisibles et les victimes ne peuvent être perçues comme des victimes. C'est ainsi que les hommes deviennent des agresseurs. Ce ne sont pas des psychopathes qui vont chez les femmes prostituées, même s'il y en a une minorité. Ce sont majoritairement des hommes normaux qui ont un comportement transgressif. Ils dissocient ensuite leur acte. Cette partie de leur personnalité qui a commis des violences sexuelles envers les femmes ne reste pas complètement clivée. La membrane entre le moi quotidien de ces hommes et leur moi d'agresseur reste fluide. Ce qu'ils ont vécu et expérimenté en tant que entre guillemets clients dans la prostitution se transpose en partie dans leur rapport avec les femmes. Ces dernières sont perçues à travers un filtre et dans une relation intime, l'expérience de la prostitution fait souvent irruption. Les limites ne sont pas respectées. Et des actes sexuels sont souvent exigés, avec donc leur compagne, même s'ils ne sont pas envisageables pour la partenaire. La prostitution est un poison pour la relation homme-femme. Donc elle explique ce qu'ont été les conséquences du coup de la dépénalisation de l'achat d'actes sexuels sur la demande. Voilà ce qu'elle dit. La normalisation a entraîné une explosion de la demande. Les politiciens allemands ont ouvert la porte à l'achat de sexe et s'étonnent maintenant que nous soyons devenus un aimant et une pépinière de prostitueurs. La politique mise sur la morale des hommes, mais envoie en même temps le message qu'il est acceptable d'acheter une femme pour assouvir ses pulsions sexuelles. La psychologie sociale ainsi que notre propre histoire nous ont pourtant montré que les hommes peuvent rapidement être amenés à violer les droits humains s'ils en ont le droit. Comment notre classe politique peut-elle être aussi naïve et ne pas avoir pris cela en compte ? Donc il ne semble pas que l'Allemagne soit en train de... Enfin, elle a la volonté de revenir en arrière, puisque en fait, même en 2021, aucun parti allemand n'avait inscrit dans son programme électoral une pénalisation des clients, des personnes prostituées, donc selon le modèle nordique et le modèle français, si on appliquait vraiment. Dans un contexte où l'achat de sexe est légal, ce que je fais en thérapie avec les clients reste une goutte d'eau, dit-elle, dans l'océan. La libéralisation de la prostitution a cassé toute une génération d'hommes et de femmes, je dirais. Je pense qu'aujourd'hui, toute femme est en danger lorsqu'elle entame une relation avec un homme, car le regard et les exigences de l'acheteur de sexe ne sont pas socialement condamnables. Voilà. Alors, je crois que je vais refaire une petite pause musicale, puisque ensuite, je changerai de sujet. Voilà.
Thank you.
révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je vais reprendre donc avec des témoignages. Donc, je les ai recueillis grâce à une femme féministe qui s'appelle Laetitia KY sur le sujet des mutilations génitales féminines. Et donc, elle recueille des témoignages. Donc, ce sont plusieurs histoires. Donc, la première est anonyme et la seconde histoire est de Anita Traoré, une femme magnifique qui se bat contre les mutilations génitales des femmes avec son association Chance et Protection pour toutes. Donc, je vais commencer par l'histoire anonyme qui a été recueillie. J'ai été victime d'excision quand j'étais bébé et ça remonte à trop loin pour que je me rappelle exactement de la douleur et de ce que j'ai ressenti quand j'ai été excisée. Mais toute ma vie, les effets de cette pratique m'ont suivi et continuent de me suivre. Et aujourd'hui, je me sens comme une adulte handicapée. Je suis née et j'ai grandi en Guinée. Et là-bas, quasiment toutes les femmes passent par l'excision. J'ai été victime d'une mutilation de type 2. C'est l'ablation du clitoris et des petites lèvres. J'ai immigré en Europe avec ma famille quand j'étais petite. Et en grandissant, je ne savais pas que j'étais différente. C'est dans mon adolescence que tout a changé. Mes amis avaient des aventures et parlaient souvent de leurs ébats avec leurs copains. Je m'intéressais de plus en plus à la sexualité comme toute adolescente et je me suis mise à regarder des vidéos pornographiques, d'abord par curiosité. C'est là que je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Je me souviens avoir pris un miroir pour essayer de voir et comparer ma vulve et celle des femmes que je voyais. Je ne comprenais pas pourquoi la mienne semblait vide. J'avais honte de poser des questions à mes amis. Je suis donc allée quelques mois plus tard pour la première fois chez une gynécologue et c'est elle qui m'a expliqué que j'avais été excisée. J'ai énormément pleuré quand je suis rentrée chez moi, mais je n'ai pas osé poser de questions à mes parents. Toutes mes expériences sexuelles jusque-là ne m'ont jamais procuré de plaisir. Ma première relation sérieuse s'est terminée pour cette raison. J'étais avec un homme génial qui me respectait et nous nous sommes abstenus pendant 3 mois. Je ne voulais pas presser les choses car j'appréhendais un peu sa réaction à la vue de ma vulve. La première fois que nous avons eu des relations intimes, je me rappelle encore du regard confus qu'il avait quand il m'a découvert. Je lui avais déjà dit que j'avais été excisée, mais je me sentais quand même gênée. Il a essayé de rattraper le coup, et malgré toute la douceur, la tendresse et la communication dont il a fait preuve, je n'ai rien senti. Aucun plaisir. Mais au moins ce n'était pas douloureux, comme avec mes partenaires précédents, car il faisait vraiment attention. C'était visible pendant l'acte que je ne ressentais rien, même quand j'essayais de m'impliquer. Toutes les fois qui ont suivi, c'était pareil. On s'est séparés, car pour lui, le fait que je ne ressente rien était insupportable. Il disait que c'était important pour lui, que les moments intimes soient des moments de plaisir pour lui et sa partenaire. Il disait qu'il avait l'impression de me violer, même si les rapports étaient consentis, parce que je couchais avec lui juste pour son plaisir à lui. Il avait raison. Je l'aimais, mais sexuellement, je le faisais uniquement pour lui. Cette rupture m'a brisée et a accentué mon mal-être. Je me sentais incomplète et j'avais honte. À chaque fois que je m'intéresse à un homme, je redoute le moment où il découvrira mon anatomie mutilée. Et cela m'empêche d'aller plus loin. Ce qui me fait tenir, c'est le groupe de soutien de victimes de mutilations génitales auquel j'appartiens. Certaines femmes ont des expériences pires que la mienne. Certaines ont contracté le VIH à cause de cette pratique. Pendant les cérémonies, des dizaines de filles sont coupées en utilisant la même lame qui n'est pas désinfectée d'une fille à l'autre. Certaines ont non seulement été coupées, mais leurs lèvres ont été cousues, en laissant juste un petit trou pour l'urine et les règles, pour être sûre qu'elles resteraient vierges jusqu'au mariage, où on les découd. D'autres ont eu des kystes énormes, post-excision, et ont eu besoin d'opérations pour s'en sortir. Une des membres a perdu sa petite sœur, le jour de sa cérémonie d'excision. Les répercussions mentales et les symptômes post-traumatiques sont lourds chez certaines. Quand je discute avec ces femmes, j'ai l'impression que mon cas n'est pas aussi grave, mais ma confiance en moi en tant que femme est basse. Heureusement, je sais qu'il y a espoir. J'ai appris grâce à elles qu'il existe des thérapies sexuelles pour guérir et améliorer nos sensations. J'ai de l'espoir quand certaines même disent avoir déjà eu un orgasme. J'espère que j'y arriverai et que je rencontrerai un homme avec qui je me sentirai à l'aise et heureuse de partager des relations intimes avec. Bref, je rêve d'un monde où les femmes n'auront plus à endurer ça. Voilà, donc je vais vous lire le deuxième témoignage donc d'une femme qui s'appelle Anita Traoré et qui a créé une association Chance et Protection pour toutes en Guinée. Vacances scolaires 2000, Marie et ses sœurs sont contentes de passer de bons moments auprès de leurs grands-parents. Deux jours après leur arrivée, une tante leur annonce la fête d'anniversaire de Johanna, leur cousine. L'anniversaire est prévu le lendemain. Il faut donc se coucher de bonne heure pour être en forme, pour la grande fête. Joyeuses, Marie et ses sœurs sautent au lit comme leur a recommandé leur tante. Malheureusement, les choses ne vont pas se dérouler comme elles l'auraient imaginé. Elles ne se doutent de rien. Vous non plus, n'est-ce pas ? Jour d'anniversaire, les filles se réveillent et se préparent en attendant Tanti Clémence qui doit les conduire chez Johanna pour une journée inoubliable. Les voilà à bord du taxi qui les emmène vers le changement, que dis-je, la transformation ou plutôt la destruction. Arrivés sur place, l'ambiance n'est pas festive. Les adultes parlent entre elles. Plus personne ne prête attention aux filles. Une quinzaine de minutes plus tard, l'une d'entre elles est appelée à entrer dans une pièce. Très vite, on l'entend hurler, encore et encore. Les trois autres en attente viennent de comprendre qu'elles vont se faire mutiler à leur tour. Ces femmes savaient, elles, qu'elles allaient définitivement changer les vies et les corps de ces fillettes. Ces dernières seront excisées l'une après l'autre, sans les accords de leurs parents. Je viens de vous raconter mon histoire, celle de mes sœurs, Yatou et Eva, celle d'une fillette appelée Poupette, venue elle aussi en vacances, celle de Marie et de ses sœurs, mais aussi celle de Khadija, de Sabrina, de Bintou, de Fatou, de Djenéba, de Mariama, et de plus de 200 millions de filles et de femmes dans le monde. Voilà, donc c'est un sujet dont on ne parle pas assez, et j'en parle du coup, ça, grâce à cette femme, Laetitia, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, je me suis dit que c'est important de reparler de l'excision, qui touche, comme elle vient de dire, 200 millions de filles dans le monde, et de rappeler tous les terribles risques auxquels sont exposées ces femmes, la mort, les infections, les saignements, les douleurs intenses, les conséquences sur la vie sexuelle, les complications obstétricales, parce que les femmes ayant subi une mutilation sexuelle féminine sont plus exposées à des complications telles que des saignements excessifs, des déchirures du périnée, etc. Des répercussions même sur le nouveau-né, des conséquences évidemment psychologiques. Beaucoup de femmes, comme vous venez de voir, décrivent ces mutilations féminines comme un traumatisme en raison de la douleur extrême qui a été ressentie au moment de l'acte, du choc, de la force utilisée, etc. Mais bon, ensuite de leur vie future. Donc voilà. Donc heureusement, des lois existent contre l'excision. Et aussi, voilà, il y a aussi des lois qui existent contre les mariages forcés. Ça va souvent ensemble. Donc, je vous recommande, si vous voulez agir, de rejoindre, enfin, en tout cas, de vous intéresser auprès d'une association qui existe aussi à Marseille, qui s'appelle GAMS Sud, et notamment à Marseille, elle est représentée par Nakissi Savané. Donc, je mettrai les coordonnées aussi, il y a aussi son numéro de téléphone. Voilà, puisqu'elle accompagne des femmes ici à Marseille qui ont été victimes d'excision. Voilà. Donc, je regarde le temps qui me reste en fonction, voilà. Donc, je vais vous parler maintenant d'un autre sujet que j'avais aussi laissé de côté. Je n'avais pas eu le temps de traiter. C'est par rapport au rapport de la SIAZ. Et donc, je vais vous en parler grâce à un article d'une amie qui est Agnès de Préville et dont le titre est éloquent, puisque le titre est « Pourquoi l'Église reste un bastion du patriarcat ?» Donc, il faut savoir que cette Agnès de Préville, elle fait partie de l'Assemblée des femmes et elle a écrit avec Sabine Sauré, un livre qui s'appelle « Le déni de l'Église ». Et j'en avais parlé aussi dans un précédent podcast. Donc, si vous allez voir dans les précédents podcasts, vous pourrez le retrouver. Donc, après 3 ans d'enquête, la SIAZ, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, a remis son rapport le 5 octobre dernier. Et il montre que l'Église reste un bastion du patriarcat. 333 000 victimes. Personne ne s'attendait à un tel chiffre. L'estimation du nombre de victimes des prêtres ou laïcs en mission cléricale de 1950 à aujourd'hui a été obtenu par modélisation. La SIAZ s'appuie en effet sur une enquête de l'INSERM et sur les violences sexuelles menées sur un échantillage large dans la population générale. Donc après la famille, l'Église catholique est le lieu où ces violences sexuelles donc, sont le plus exercées. Ce rapport permet de commencer à comprendre par quels mécanismes ces crimes ont pu être rendus possibles et se perpétuer dans une quasi-impunité. Il révèle l'ampleur des crimes, dénonce un système et la gestion calamiteuse qui en a été faite, méconnaissance de la gravité des faits, difficulté à croire les enfants comme les religieuses, souci de protéger les clercs, dissimulation et silence. Donc je reviendrai aussi, donc c'est son, donc la SIAZ traite des abus sexuels dans l'Église catholique. Donc très grande majorité de victimes sont des enfants et il y a effectivement aussi les religieuses qu'on oublie trop souvent. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc quelles sont les causes de l'ampleur et de la dissimulation des crimes? Eh bien, parmi ces causes, le rapport pointe un entre-soi d'hommes célibataires dans l'Église, le cumul et la confusion des pouvoirs sans contre-pouvoir, le tabou et la culpabilisation de la sexualité, le secret de la confession, l'absence des femmes dans les lieux de décision. La domination masculine qui s'exerce sans frein dans l'Église augmente toutes les violences sexuelles. Le droit catholique, dit droit canon, institue en effet un système où les clercs sont supérieurs aux femmes et aux enfants et cumulent tous les pouvoirs. Dieu est masculin. L'imaginaire catholique est façonné par des récits patriarcaux où Dieu est un père, mais aussi un fils et encore un époux. Dieu est donc masculin. Seules les personnes pourvues d'un pénis peuvent le représenter. On les appelle les clercs, les prêtres, les évêques, le pape. Cette homosocialité décide pour les femmes et les assigne à la maternité, au service et à l'obéissance. L'Église apparaît donc comme matrice de stéréotypes sexistes dans nos sociétés. Car cette assignation est encore bien présente. Elle autorise des violences et des humiliations si les femmes ne se coulent pas dans ces modèles. Le rapport de la SIAZ révèle que les enfants sont eux aussi dans des situations de dépendance, à la fois éducative et affective. Ils doivent être obéissants, ils ont confiance dans l'autorité et cherchent de plus à plaire à ceux qui s'occupent d'eux. Dans l'ignorance de la sexualité et des mots pour le dire, les enfants et les femmes sont vulnérables, la porte est ouverte à tous les abus. Le cas des religieuses agressées et violées, étudié par la SIAZ, fait le lien entre cette situation de soumission des femmes et celle des enfants dans l'Église. Le rapport de la SIAZ a fait tomber cette invisibilisation de la domination des enfants et des femmes dans l'Église. Donc je trouve très intéressant cette analyse donc, de féministe donc, de Agnès de Préville qui fait le lien entre la religion ici catholique et le patriarcat, donc l'imaginaire catholique qui façonne, qui endoctrine de façon sexiste. Et ce qui est le cas, en fait, pour toutes les religions. Donc, du coup, là, j'ai parlé des religieuses abusées, mais le rapport de la SIAZ en parle, mais on en parle vraiment très peu dans les médias. Je vois très peu d'articles qui sortent sur ce sujet, qui visiblement intéresse pas grand monde, malheureusement. Donc, voilà. Du coup, j'ai repéré donc sur Arte un documentaire que vous pouvez voir en replay, que je trouve très intéressant, sur les religieuses abusées, qui s'appelle donc, le titre, c'est « Les religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église ». Il est disponible jusqu'au 11 mai, donc vous avez encore le temps de le voir. Voilà, donc si la parole des victimes, des prêtres pédophiles, enfin pédocriminels en fait, les mots sont importants, il ne s'agit pas d'aimer les enfants, mais bien d'exercer un crime de viol sur eux. Donc si la parole des victimes des prêtres pédocriminels s'est libérée publiquement ces dernières années, celle des sœurs agressées sexuellement par des hommes d'église peine à franchir le mur de silence. Pourtant elles sont nombreuses, partout dans le monde, à subir des viols par des ecclésiastiques abusant de leur autorité. Certains prêtres n'hésitent pas même à détourner les textes des évangiles pour disposer impunément du corps des religieuses, lesquelles, lorsqu'elles se retrouvent enceintes, sont exclues de leur congrégations ou contraintes d'avorter. Quand ces crimes sont avérés dans les paroisses, les coupables sont seulement mutés par la justice cléricale. Dans les années 90, après plusieurs années d'enquête dans 23 pays, deux missionnaires américaines transmettent l'une et l'autre au Vatican un rapport très documenté sur ces abus sexuels. Mais leur cri d'alarme reste sans réponse. En mars 2001, le journal américain The National Catholic Reporter publie pour la première fois ces révélations. Des parlementaires européens qui se saisissent de l'affaire font alors adopter une résolution, sommant le Saint-Siège de réagir en vain. Depuis, malgré les dénonciations répétées au sein de l'institution, trois papes se sont succédés sans jamais remédier aux violences sexuelles perpétrées contre les femmes consacrées. Donc ce documentaire est intéressant puisqu'il y a une investigation rigoureuse qui a été menée pendant 2 ans sur 4 continents avec la collaboration de la journaliste Elisabeth Drévillon, Marie-Pierre Rimbaud et Éric Quentin, donc, qui ont réalisé ce documentaire. Il date de 2017, il dure 1h30. Et il lève le voile donc, sur l'effroyable réalité qui ronge le clergé catholique depuis des années. Pour la première fois, on y voit des religieuses victimes, ce qui se confient à cœur ouvert sur leur tragédie intime et qui brise l'omerta imposée par le Vatican. Outre leurs courageuses et douloureuses paroles, ce documentaire livre des témoignages rares de mères supérieures ou d'hommes d'église, dont un proche du pape François, engagé dans la lutte contre ces agressions sexuelles. Il interroge aussi des responsables religieux soucieux de repenser les rapports entre genres au sein de leur congrégation. Des dérives mafieuses de certaines communautés cléricales aux avortements forcés jusqu'aux méthodes employées pour étouffer le scandale. C'est une plongée glaçante au cœur d'un des plus anciens tabous de l'institution catholique. Voilà, donc je vous rappelle, je mettrai la référence aussi. Vous pouvez le voir jusqu'au 11 mai sur Arte Replay. Voilà, donc dans la suite de ce thème en fait de patriarcat religieux, où je dirais que pour moi il est indispensable de lutter contre le patriarcat religieux puisque toutes les religions sont misogynes et que malheureusement il n'y a pas assez de féministes qui luttent et qui le disent clairement, enfin je trouve. À part donc justement par exemple je pense aux Femen ou au Radfem en fait, au féminisme radical, mais bon. Du coup, je vais vous lire aussi un texte sur un pays qui est révélateur, en fait. Il s'agit du Liban et qui montre comment c'est un pays emblématique où les femmes, en fait, se retrouvent otages du patriarcat et des religions. De toutes les religions, puisque justement, en fait, le Liban, c'est multiconfessionnel, mais les régimes religieux font loi. Et vous allez voir ce que ça donne, évidemment, sur le droit des femmes. Donc, au Liban, les femmes otages du patriarcat et des religions. Juridiquement traitées comme inférieures aux hommes, leur statut personnel est soumis à leur appartenance confessionnelle. Les Libanaises ne peuvent défendre leur droit d'héritage ou de garde des enfants en cas de divorce. Une anomalie qui paralyse la société tout entière. Le Liban est l'un des pays où la participation des femmes à la vie publique est le plus faible, avec 6 députés sur 128 au Parlement. Ce dernier a refusé de discuter d'une proposition de quota féminin pour les législatives du printemps prochain, présentée par la députée Inaya Ezazedine. Celle-ci n'a pas caché sa fureur contre l'hypocrisie de ses pairs. Les femmes ne sont pas traitées comme des citoyennes à part entière, bénéficiaires de politiques publiques, alors que leurs droits fondamentaux sont bafoués. C'est tout particulièrement vrai en droit de la famille, qui n'est pas une branche juridique parmi d'autres, mais un socle de l'organisation de la société. Alors donc au Liban, nous avons des régimes religieux spéciaux. En droit libanais, la femme n'est toujours pas à ce jour l'égale de l'homme. C'est ce que rappelle l'avocate Leila Awada, qui a cofondé une ONG qui s'appelle CAFA et qui signifie « assez » en arabe, dont le cheval de bataille est l'adoption d'un code civil unifié pour le droit de la famille. Malgré une constitution laïque fait unique au Moyen-Orient, garantie depuis un siècle la liberté de conscience absolue, la législation libanaise en matière de statut personnel est restée l'apanage exclusif des droits religieux. Donc en fait, voilà, je te dirais que cette constitution enfin, ne respecte pas du tout ce que devrait être la laïcité, qui sépare normalement le politique du religieux. Donc la législation libanaise en matière de statut personnel est restée l'apanage exclusif des droits religieux, relevant des 18 communautés confessionnelles, également reconnues par la Constitution. Les pouvoirs publics, dont la légitimité est essentiellement communautaire, ont sciemment choisi d'ignorer l'aspect laïque de la Constitution et n'ont jamais promulgué de loi civile du statut personnel. Ah, d'accord. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que la Constitution est laïque, mais qu'en fait, le politique ne le respecte pas. Les chefs religieux étroitement associés aux chefs politiques ont fait échec à toutes les tentatives pour l'adoption, par exemple, d'une loi sur le mariage civil. Les Libanais sont de facto prisonniers de leur appartenance communautaire tout au long de leur vie, de la naissance au décès, en passant par le mariage ou le divorce, ainsi que lors des successions. Une loi de 1958 en la matière ne s'applique qu'aux non-mahométans. Or, les régimes religieux spéciaux auxquels ils sont soumis sont tous discriminatoires à l'égard des femmes. Le biais est systématique, selon un rapport de Human Rights Watch qui a analysé quelques 447 jugements de divorce, toutes confessions confondues. C'est ainsi, par exemple, que dans la quasi-totalité des cas, une femme libanaise, qu'elle soit druze, sunnite, chiite, maronite, grecque orthodoxe, grecque catholique, protestante, etc., ne partage pas l'autorité parentale avec le père de ses enfants. Celui-ci reste le chef de famille exclusif. La garde des enfants en cas de divorce est l'un des domaines où la mobilisation d'associations de femmes a été de la plus en pointe. Les sunnites ont obtenu en 2012 de pouvoir prétendre à la garde de leurs enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, contre 7 ans pour les garçons et 9 ans pour les filles auparavant. La réforme du code de la famille druze a entériné en 2017 une évolution semblable. La mère peut obtenir la garde de ses fils jusqu'à 12 ans et de ses filles jusqu'à 14 ans. Tandis que la mobilisation chez les chiites, où ce droit reste limité à 2 ans pour les garçons et 7 ans pour les filles, n'a pas encore abouti à des résultats palpables. Le défi des mariages mixtes. Un tableau comparatif des différents droits applicables en fonction des appartenances communautaires montre à quel point le droit de la famille libanais entrave la cohésion nationale du fait de la multiplicité des situations, sans parler des complications, voire des impasses, auxquelles aboutissent les mariages mixtes. La reconnaissance par l'État de mariages civils conclus à l'étranger ajoute aussi un niveau de complication, les juges libanais étant appelés à appliquer des droits étrangers divers. Au-delà de l'imbroglio, l'écart est criant entre les principes fondamentaux garantis par la Constitution, donc qui était laïque, et la réalité des droits appliqués aux Libanais. Quel que soit son rite, aucune mère n'a un droit de garde équivalent à celui du père. Voilà, toutes les religions sont misogynes. Il est au meilleur des cas, dans les églises catholiques, laissé à l'appréciation du juge religieux en fonction de l'intérêt de l'enfant. Voilà, donc après, l'article termine par un exemple. Donc, c'est l'exemple de Majida, qui est une chrétienne maronite, qui a été privée de son fils de 8 ans. Son fils qui a 8 ans, donc elle a été privée de son fils pendant un an. Elle dit « Mon mari me battait, j'ai accepté cela sans rien dire, jusqu'au jour où mon fils a été témoin de mon humiliation, ce qui m'a convaincue, malgré mes craintes, de partir. » La jeune femme, intimidée par son mari et ses frères, ne peut demander de droit de visite de son fils, resté automatiquement chez le père, qu'au terme d'une longue procédure d'annulation de mariage, le divorce lui-même n'étant pas reconnu par son église. « Tout ce que je demande, c'est de pouvoir le voir, » dit Majida. Pour qui elle continue à élever son fils, c'est tout simplement inenvisageable. Si elles sont particulièrement douloureuses lorsqu'elles touchent à la maternité, les discriminations s'étendent à tous les domaines, et d'abord à la reconnaissance même des femmes comme des sujets de droit à part entière. Leur statut est assimilable à celui d'un mineur. Sur le registre d'état civil, elles sont forcément rattachées à un homme, à leur père ou à leur mari. De là découlent diverses lois qui violent manifestement le principe de l'égalité de traitement entre citoyennes et citoyens d'un même pays, à l'instar de la transmission de la nationalité. Impossible pour une mère libanaise ayant épousé un étranger de transmettre la nationalité. Voilà, j'ai trouvé cet article intéressant pour illustrer ce que donne le patriarcat religieux lorsque la foi fait loi, lorsque les religions font loi. Voilà, donc je vois qu'il est tard. Donc à ce sujet, eh bien, je ferai la prochaine fois. Je vous parlerai donc de Betty Lashgar, que le 8 mars dernier, je suis allée la voir au Maroc, donc une féministe marocaine qui se bat contre tous les patriarcats, qu'ils soient religieux ou capitalistes. Et voilà. Mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà. Donc je crois que là, je n'ai pas vraiment le temps d'aborder autre chose. Ah si, bah justement. Donc du coup, je vais juste terminer sur ça. Je vous ai parlé donc de Betty. Elle a créé un mouvement pour les libertés individuelles au Maroc, un mouvement donc pour les droits humains et puis aussi évidemment les féministes donc pour les droits des femmes en particulier. Mais donc elle se bat pour l'universalisme, la laïcité, pour les libertés individuelles. Elle se bat contre la peine de mort. Elle se bat pour la liberté de conscience. Voilà, elle se bat pour la laïcité. Elle se bat contre toutes les lois misogynes qui existent au Maroc, etc. Et donc début février, voilà, Mali, donc son mouvement a publié un macabre dictionnaire des tests de virginité. Et c'est un dictionnaire qui est illustré, un dictionnaire illustré qui dénonce une société patriarcale qui réduit la valeur d'une femme à sa virginité préservée pour sa nuit de noces. Donc cela dénonce évidemment ce mythe patriarcal et un concept imaginaire qui ont été créés pour opprimer les femmes. La virginité, un mot si pur, c'est un mythe qui porte un lourd et sombre fardeau. Pendant des siècles, de nombreuses techniques, certaines plus dangereuses que d'autres, ont été utilisées pour tester la virginité d'une femme avant ou pendant sa nuit de noces. Certaines d'entre elles sont encore pratiquées à ce jour au Maroc et dans d'autres sociétés à travers le monde, une vingtaine de pays, comme le test du drap de lit, une tradition dans certains pays arabes et musulmans selon laquelle les draps sont inspectés après la nuit de noces afin de vérifier l'existence de taches de sang censées prouver la virginité. Donc c'est un livret donc, voilà, je mettrai la référence, qui est téléchargeable gratuitement en format numérique. Il est décliné en 3 langues, arabe, français, anglais. Et il est constitué donc de 37 pages de dessins et de textes sur une quinzaine de mots et de concepts qui semblent ordinaires dans le langage du quotidien, mais qui ont été construits il y a des siècles comme moyen d'évaluation et d'oppression des femmes. Donc ce mythe de la virginité féminine a des conséquences terribles, notamment le viol conjugal, la dot, le mariage, jusqu'au crime d'honneur. Le crime d'honneur, il faut rappeler ce que c'est le meurtre d'une femme pour avoir perdu sa virginité, le meurtre d'une femme pour avoir eu des relations intimes hors mariage ou le meurtre d'une femme qui a été victime de viol. Les criminels revendiquent le déshonneur familial qui serait dû à la perte de virginité. La femme a été consommée et du coup, c'est le déshonneur de la famille. Les victimes sont considérées inaptes et inéligibles au mariage. Voilà, donc ensuite Mali rappelle donc qu'il existe toujours au Maroc des lois macabres et anachroniques qui participent à ce contrôle du corps et de la sexualité de la femme. Et notamment ces lois au Maroc avec l'article 488 qui dit du code pénal marocain, qui dispose de ce qu'on appelle la défloration, qui autorise la pratique du test de virginité sur les filles et les femmes qui ont été victimes de viol et qui inflige par conséquent des peines plus sévères à l'agresseur, donc au violeur, selon la supposée virginité ou non de la victime. Donc voilà ce qu'en dit ce mouvement Mali créé par Ibtissam Betty Lashgar. L'article 488 est une loi qui ne protège pas contre le viol lorsqu'une femme ne peut prouver qu'elle était vierge avant que le crime ne se produise. Donc ce collectif Mali a pointé beaucoup d'autres articles du code pénal écrits par des hommes, donc des articles qui criminalisent l'homosexualité, des articles qui criminalisent les relations sexuelles avant le mariage ou l'adultère avec des peines d'emprisonnement.
Par exemple, un article qui dit « Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils sont commis par l'un des époux sur l'autre, ainsi que sur le complice, au moment où il les surprend, en flagrant délit d'adultère. » Et ça, c'est l'article 418. Théoriquement, ces articles concernent les deux sexes, mais en fait, ils s'appliquent bien plus aux femmes. Et donc, ce sont la conséquence aussi du mythe, toujours de ce mythe de la virginité féminine. L'article 475 du Code pénal, lui, avait été abrogé, normalement, donc qui mettait fin à l'impunité pour les violeurs de mineurs. Parce qu'il y avait cet article, donc, quand un homme, un agresseur, enfin un violeur de mineurs, eh bien, il suffisait qu'il se marie et hop, tout va bien. Voilà, donc c'est terrible. Je crois que je vais en rester là. Et donc... vous dire merci de votre soutien, de votre écoute. Et à la semaine prochaine, je vais remettre l'hymne des femmes. Cette fois-ci, je vais passer l'hymne en français par la compagnie Jolie Môme, l'hymne des femmes.